Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 19h20, avec un trio qu'on connaît bien dans Les vraies voix. Un trio qui commence par être présidentiel. Enfin, il n'est pas candidat, il n'a même pas demandé les parrainages. Avec le président de l'Institut de la Parole, auteur de libres propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie, vous avez reconnu Philippe Bilger. Bonsoir, mon cher Philippe.
Bonsoir, mon cher Philippe David. Comme nous sommes deux Philippe, je le précise.
C'est bon de le rappeler. Une vraie voix qui s'est parfaitement assimilée aux vraies voix, c'est logique, puisque son dernier livre s'appelle « Assimilation, en finir avec ce tabou français », publié aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir, Lydia Guirous.
Bonsoir Philippe David, bonsoir à tous.
Mais vous mériteriez un titre présidentiel, vous aussi, je pense.
J'imagine.
Vous n'avez pas une présidence quelque part ?
Non, mais ça ne saurait tarder.
Ah, dites-nous tout.
Ah, je garde le suspense, ça fera l'objet d'une grande émission.
Et une vraie voix dont j'adore la coupe de cheveux, puisqu'on a à peu près la même, et on peut dire que c'est devenu... quelque part, un des maillons forts des vraies voix, puisqu'il s'agit de Boris Faure, républicain laïque et syndicaliste.
C'est exact, je suis très embêté, je ne suis pas superstitieux, mais je me suis ébréché un ongle en rentrant dans le studio. Je ne sais pas ce que ça annonce, Philippe.
Ah bah ça annonce une très bonne émission.
Voilà, bah voilà, c'est ça.
Vous voyez, il faut être positif. Ça va ?
Ça va très très bien, merci Philippe.
Et nos deux sujets des vraies voix à 17h30. Premier débat, faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans ? C'est dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Bah pour le moment, vous n'avez pas envie de travailler jusqu'à 65 ans, puisque vous êtes 83,1% à dire non. Deuxième débat à 18h30, notre grand débat des personnalités politiques. François Hollande, Sandrine Rousseau, Bruno Le Maire disent aux Français de moins se chauffer. Est-ce indécent ? Et pour le moment, vous êtes 92,6% à dire oui. Vous voulez réagir le 0826-300-300 avant de passer au rolling Ifop fiducial ? Je voudrais faire deux clins d'œil. J'ai la marraine d'une petite fille de 8 ans. Elle s'appelle Marie-Anne. Elle était aujourd'hui sur la table d'opération à 8 ans pour subir une greffe du cœur à Toulouse. Sa marraine est une fidèle auditrice. Ses parents sont de fidèles auditeurs et ils m'ont envoyé un message par les réseaux sociaux en me disant « Philippe, si vous pouviez, avec les vraies voix, donner un message à notre fille d'encouragement, on lui fera écouter quand elle se réveillera. Je sais qu'elle est désormais en salle de réveil. Je me suis renseigné juste avant de descendre en studio. » Alors je voudrais lui dire au nom de Marianne, je pense que toutes les vraies voix peuvent lui envoyer beaucoup de courage à 8 ans subir une grève du cœur.
Beaucoup de courage et surtout ça sera une nouvelle étape dans sa vie et voilà, on pense très fort à elle, courage.
Philippe Bilger, un petit message pour Marianne.
Mais je l'embrasse très fort.
Et vous, Boris Faure ?
Avec son cœur neuf, elle va en plus pouvoir, dans l'avenir, briser le cœur de nombreux garçons, j'en suis sûr. Donc longue vie à toi et porte-toi bien.
Et donc on embrasse Marianne et je tenais à rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter. C'était l'éditeur de mes deux derniers livres, Yves Michalon, grand monsieur de l'édition, nous a quittés hier. On l'a appris aujourd'hui et je tenais à lui rendre hommage et à présenter mes condoléances à sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Repose en paix, Yves. Alors, l'heure du Rolling Ifop fiducial, c'est parti ?
Allons-y.
Eh bien, c'est parti.
Sud Radio Parlons Vrai, présidentiel 2022.
Et il y a une petite baisse d'Emmanuel Macron qui passe à 31% d'intention de vote, petite baisse de Marine Le Pen qui passe à 18%. Il représente quand même à eux deux 49% contre 50% hier. Petite montée d'Yannick Jadot, petite montée de Valérie Pécresse à 12,5%, tandis qu'Éric Zemmour reste à 12%, et petite baisse de Jean-Luc Mélenchon qui perd un demi-point à 10,5%. Ce soir, c'est le duel, on va appeler ça comme ça, ou le débat Zemmour-Pécresse. Philippe Bilger, un demi-point d'écart entre les deux. Est-ce que le trou va se faire ce soir ?
Mais en tout cas, c'est le désir d'Éric Zemmour, si j'ai bien lu les médias aujourd'hui, de creuser l'écart et de la pulvériser. Je ne suis pas persuadé que Valérie Pécresse se laisse faire dans la mesure où elle sera dans un exercice où elle est naturellement moins mauvaise qu'elle l'a été au Zénith. Mais je suis frappé de voir, Philippe, à quel point Emmanuel Macron et Marine Le Pen se suivent, je dirais, quand ils montent et quand ils descendent. À chaque fois, on voit le mouvement ascendant ou descendant qui s'accorde. C'est très étonnant.
Ah, c'est un peu comme de la danse sur glace, c'est parfaitement assimilé. Ils prennent un demi-point ou ils perdent un point ensemble.
Voilà, il faut croire qu'on nous programme le second tour, quoi.
Lydia Guirous, c'est ce soir que ça se joue pour Valérie Pécresse et Éric Zemmour pour essayer de pouvoir remonter sur Marine Le Pen ?
Alors, elle avait longtemps refusé de débattre avec Éric Zemmour. Au départ, elle refusait parce qu'elle considérait qu'elle devait débattre qu'avec ceux qui auraient les 500 signatures. En réalité, je pense que le fait d'accepter ce débat face à Éric Zemmour, qui connaît très bien les médias, qui sait très bien débattre, elle aussi est bonne débatteuse, mais lui maîtrise l'art de la polémique, et je crois que ses équipes ont travaillé sur les 20 dernières années politiques de Valérie Pécresse pour voir les contradictions et une forme d'inconstance en fait chez Valérie Pécresse sur certains sujets. C'est ce qu'il va essayer de mettre en avant. Si Valérie Pécresse a accepté ce débat avec son équipe, c'est pour essayer de changer cette tendance qui est baissière depuis plusieurs semaines, être à 12,5%, quatrième, parfois cinquième dans d'autres sondages. C'est quand même dramatique pour les Républicains. Ils n'ont même plus l'argument aujourd'hui de dire qu'ils sont les mieux placés au second tour pour battre Emmanuel Macron. Ça va se jouer ce soir. C'est un pari qui est très risqué. On verra. Elle peut peut-être se révéler, comme elle peut tout perdre. Ça va être qui tout double.
Je vais citer une chanson à bas, The Winner Takes It All. Le gagnant prend tout, rafle tout.
Moi, en tout cas, on est dans la période de la campagne où on est juste avant ce qu'on appelle la cristallisation des votes. On dit que à trois semaines environ, normalement, les personnes se sont fait une conviction et qui s'arrêtent
là. On est à un mois jour pour jour.
Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on est en tout cas, c'est les dernières opportunités à saisir. Et le problème de Pécresse et Zemmour, c'est qu'ils ont tous deux un problème d'autorité. Pécresse, je pense, c'est son électorat a perdu sa confiance dans son verbe, tout simplement. Elle n'a pas affirmé cette autorité verticale, normalement, que démontrent les personnalités de droite en campagne. Quant à Zemmour, il a regardé du côté de l'autorité poutinienne et il a un vrai problème avec ses prises de position pro-Poutine. Voilà, la politique du Knut, je crois qu'on a compris que ce n'est pas le patriotisme français, ça n'a rien à voir. Donc, tous deux, un problème d'autorité et Macron, chef de guerre et président de l'Europe, lui, il surfe, j'allais dire, sur la vague, sur la guerre. Je le dis sans cynisme, mais d'une certaine manière, il profite de ces circonstances troublées, tragiques, et il est président à l'Élysée et candidat. Voilà.
Je voudrais vous poser une question finalement très courte à tous les trois à gauche, on n'en a pas parlé. Jean-Luc Mélenchon, on disait que ce serait le vote utile à gauche, il perd 0,5 point à 10,5 quand Yannick Jadot gagne 0,5 point à 6. Philippe Bilger, ça va être le vote utile ou pas à gauche, Mélenchon ?
Le problème de Mélenchon, c'est que même si on n'adhère pas, évidemment, à son programme, on est obligé de dire, lorsqu'on l'entend, qu'il a beaucoup travaillé. Et qu'au fond, lorsqu'on lui pose des questions, il y répond sans tergiverser et sans chercher ses mots. Mais le problème de Mélenchon, c'est sa personnalité. Il y en a qui gagnent grâce à leur programme, et d'autres qui perdent à cause de leur être. Et je crains que Mélenchon pose toujours un problème pour les alliances qu'il devra nouer à cause de son être et de sa personnalité.
Lydia Guirous.
Je pense qu'on ne peut pas commenter plus 0,5, moins 0,5 sur un sondage comme le Rolling. Une chose est certaine, c'est que Yannick Jadot a raté sa campagne. On avait beaucoup d'observateurs et beaucoup de militants de gauche avaient un certain espoir en la candidature de Yannick Jadot. Bon, son boulet était Sandrine Rousseau qui, semble-t-il, le traumatisait un peu. Il n'osait pas émettre la moindre idée. Aujourd'hui, il y a une forme de transparence dans la campagne de Yannick Jadot. Ça n'imprime absolument pas, et je crois qu'on parlera de certaines de ses déclarations dans quelques minutes. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon peut être le vote utile, il rêve en tout cas de l'être pour pouvoir rassembler ceux qui ne peuvent pas exprimer un vote en faveur de Christiane Taubira, ceux qui considèrent que voter pour Yannick Jadot, finalement, c'est comme ne pas voter, puisqu'il n'y a aucun espoir d'être au second tour. Le ticket de qualification est assez bas pour le second tour.
Ah ben là, si c'est la à 18%.
Gauche, voilà, se rassemble, ça peut faire quelque chose, mais on sait très bien que ce n'est pas une addition qui se termine par 1 plus 1 égale 2. Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il peut rêver être le vote utile, mais en tout cas, pour l'après, pour les législatives, là, ça sera le véritable enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, pour avoir un groupe peut-être à l'Assemblée nationale.
Ouais. Boris Faure.
Il y a une partie de la gauche qui ne pardonne pas à Jean-Luc Mélenchon, ses prises de position indigénistes.
Bien sûr.
Il y a une partie de la gauche qui ne pardonne pas son itinéraire qui allait d'un universalisme républicain, une défense forte à l'époque de la République vers une forme de, je le dis clairement, de communautarisme, communautarisme de gauche, on l'appelle comme on veut. Et ça, à titre personnel, je dirais que pour moi, c'est très lourd et c'est très difficile. Et donc, s'il travaille, comme le disait notre ami Philippe, si Jean-Luc Mélenchon entend le message, qu'il se ressaisisse très vite et qu'il redevienne pleinement républicain.
C'est un peu tard.
Les vraies voix, 17h14 à 17h30, notre premier débat. Faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans? Vous êtes seulement 16,3% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 303 sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, les tours de table de l'actualité.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Boris Faure, et c'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Pas de panique, nous sommes des professionnels.
C'est tout à fait vrai.
Ah bon?
Vous causez quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Philippe Bilger voulait parler du PSG pour qui l'argent ne fait pas le bonheur, c'est le moins qu'on puisse dire.
En effet, Philippe, pour être honnête, je n'ai jamais été fanatique du PSG du Qatar, même si bien sûr je souhaitais, lors de ces grandes compétitions, la victoire de cette équipe. Mais hier, j'ai été frappé par un certain nombre de choses qui montrent que cette équipe, comme vous le dites très bien, en dépit de l'argent surabondant, a du mal dès qu'elle rencontre un couac, en l'occurrence dû à la maladresse de son gardien et au talent exceptionnel de Benzema, elle s'effrite psychologiquement. Et je ne voudrais pas être trop long, Pochettino est un entraîneur qui, lorsque le PSG avait encore toute qualification dans la poche 1-1, n'a pas su booster son équipe. Et je voudrais terminer sur une lucidité toute particulière de Jean-Michel Larquet, qui avait été le seul à ne pas tomber dans l'optimisme béat après le match aller, parce qu'il avait justement souligné que gagner 1-0 chez soi, ça ne garantit absolument pas le succès au match retour.
Lydia Guirous.
Alors, en grande experte du football, je vais m'exprimer. Non, je partage ce que vient de dire Philippe Bilger. C'est vrai que c'est assez étrange d'avoir autant de stars du football qui ont été achetées à coups de millions et de ne pas parvenir à gagner. Bah, c'est un peu la malédiction du PSG, comme quoi le fait d'aligner des stars ne crée pas forcément la cohésion et n'amène pas à la performance. J'ai lu, je crois, dans Marianne, un journaliste qui disait « PSG, pas sûr de gagner
oui. ».
Je crois que c'était assez drôle.
Boris Faure.
Oui, moi je sais que quand on va jouer à Manchester ou à Liverpool et qu'on est un joueur étranger, il est certain qu'on n'y va pas pour faire du tourisme. Oui. Et je pense qu'à Paris, il fait trop bon vivre, en
oui.
fait, tout simplement.
Ah ben, entre la Fashion Week, les boîtes de nuit...
Et Anne Hidalgo.
Oui.
Bon, Paris, puis, Hidalgo, de
je suis supporter de l'OM, donc j'avais une tristesse modérée hier soir quand ils ont perdu.
Mais quand même, c'est vrai ce que dit Philippe Bilger, on en parlera à 18h15 avec Clément Pernia qui a écrit notamment « La grande histoire du PSG ». Il les domine pendant, il y a 180 minutes de match, il les domine pendant 90 et 60, 150 minutes, et après il y a 10 minutes catastrophiques. C'est quand même fou, ça prouve qu'il n'y a pas de mental.
C'est là où il faut un aboyeur, c'est là où il faut, il aurait fallu à l'époque un Didier Deschamps
oui.
pour pousser une gueulante, ressaisir les troupes, et là j'ai l'impression quand même, malgré tout, qu'il manque un joueur de cette trempe-là au milieu.
Philippe Bilger, cojones, c'est un mot espagnol, on l'a encore vu hier soir.
Oui, bien sûr, mais il faut dire qu'ils ont remarquablement exploité la bourde du gardien
Donnarumma.
Du PSG. Et puis le public et l'effritement de la psychologie collective. Boris a tout à fait raison. On comptait en général sur Marquinhos, qui a été très mauvais hier soir.
Oh, cataclysmique.
Au fond... Le seul qui aurait pu insuffler de l'énergie, et il a été presque à la hauteur de sa réputation, c'est Mbappé.
Ah bah, il a été à la hauteur, il met 3 buts, dont 2 refusés pour 2 hors-jeu. Mais il y avait hors-jeu, hein,
oui.
limite. Moi, il y avait un joueur sur le terrain hier, 2. Mbappé et Paredes. Tout ce que j'ai vu.
Paredes, c'est votre...
Ah bah, quand il est sorti, on a pris l'eau, hein, la preuve. Hein. Bon,
c'est
par contre,
même un
il aurait pu se faire sortir pour un carton rouge parce qu'il a mis une semelle à Benzema qui aurait pu lui valoir un deuxième jaune.
Vous pouvez vous consoler en vous disant que Benzema est quand même un joueur français qui fait partie de l'équipe de France. Donc
c'est clair.
C'est un moindre mal.
Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a eu 4 buts. Il y a eu 5 buts en 2 matchs marqués que par des Français. En plus, c'est vrai, Mbappé et Benzema.
Soyez
maintenant, on va passer à votre tour de table, mais on commence avec un son, ma chère Lydia Guirousse.
Non, mais moi, je vais plaider coupable. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple, au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait.
Lydia Guirousse, c'est les propos de Robert Ménard tenus ce matin.
Alors, c'est les propos de Robert Ménard, qui est donc maire de Béziers, qui est plutôt connu pour être très à droite. Et qu'il a tenu non pas ce matin mais hier sur LCI David Pujadas.
Oui.
Et donc il fait un mea culpa qui était assez étonnant, qui semblait être plutôt sincère sur les propos qu'il a pu tenir et les actions qu'il a pu mettre en place en tant que maire de Béziers au sujet des migrants et notamment lors de la crise syrienne. Et il dénonce lui aussi une forme de deux poids deux mesures sur l'accueil de ces migrants en disant que oui, il a été peut-être il a été dans l'erreur, il a manqué d'humanité lorsqu'il s'est agi d'accueillir les migrants qui venaient de Syrie, parce qu'ils n'étaient pas européens, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'est les mots de Robert Ménard. Il dit que les bombes, elles n'ont pas de différence, elles ne font pas de différence quand elles tombent, que ce soit à Kiev ou à Alep, et qu'il faudrait, il pense qu'aujourd'hui, il faut donc accueillir les réfugiés, ceux qui quittent un pays à cause de la guerre, à cause des bombes qui tombent, sans regarder, sans faire de distinction sur leur religion, leur couleur de peau. Et voilà, je trouvais que c'était une belle intervention de Robert Ménard, un peu surprenante politiquement, parce qu'il n'a pas aussi oublié de tacler Éric Zemmour, qui a dit qu'il refusait d'accueillir d'abord les réfugiés qui venaient d'Ukraine.
Et après, il a dit qu'il était prêt à les accepter à Toulon.
Qui a rétro-pédalé, et puis ensuite qui s'est appuyé sur un article du Figaro pour dire oui, mais parmi ceux qui fuient les bombes en Ukraine, il n'y a pas que des Ukrainiens, il y a aussi des gens qui sont d'origine algérienne et non européenne. Donc à croire que ces gens-là, il faudrait les laisser sous les bombes russes parce qu'ils sont d'origine algérienne notamment et qu'ils n'ont pas le droit de fuir cette guerre en Ukraine. C'est une position assez étrange de la part d'Éric Zemmour, mais ça ne sera pas la première.
Philippe Bilger.
Mon ami Robert Ménard me surprend de plus en plus ces derniers mois. Il est un excellent maire de Béziers. Mais par ailleurs, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. J'entends par là qu'on peut tout à fait expliquer pourquoi l'accueil des Ukrainiens suscite plus d'enthousiasme que celui des réfugiés émanant de Syrie. D'abord, les situations diplomatiques et militaires ne sont pas du tout les mêmes et il y a du côté de l'Ukraine une injustice absolue qui pouvait prêter à équivoque de l'autre côté. Mais je ne reprocherai pas à Robert Ménard de se pencher sur lui-même et de faire, depuis quelque temps, un certain nombre de contritions. Je n'en avais pas l'habitude avec lui, mais après tout, pourquoi pas.
Boris Faure, va-t-il faire un acte de contrition?
Contrition, je ne sais pas, mais c'est vrai que, comme le disait Lydia, les mea culpa sont extrêmement rares en politique. Et plus exactement, ils sont rares quand on est encore en position de responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, en revanche, que certains politiques expriment dans leur mémoire, une fois qu'ils ont pris du recul, par exemple les ex-présidents, des regrets. François Hollande l'a dit dans ses mémoires, qu'il regrettait la déchéance de nationalité, considérait que ça a été une erreur. Mais là, ce que fait ce maire, effectivement, de Béziers, moi, je trouve que c'est assez... il faut le saluer, même si je ne partage absolument pas ses idées. Mais là, il va plutôt quand même dans le bon sens.
Les vraies voix, 17h presque 27. Dans quelques instants, notre premier débat. Faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans ? Si vous avez 63 ans et demi et que vous n'êtes pas encore parti en retraite, vous allez peut-être dire non si vous aviez envisagé de la prendre rapidement, puisque c'est une promesse d'Emmanuel Macron si jamais il était réélu. Pour le moment, vous êtes seulement 15,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On va en débattre de suite avec Céline Verzelletti, secrétaire confédérale, dirigeante confédérale de la CGT.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
La retraite, c'est la santé. On est payé sans travailler.
La retraite, c'est la santé, oui. La reprise d'une chanson d'Henri Salvador. Il va falloir travailler plus longtemps, une des contreparties peut-être du quoi qu'il en coûte. Finalement, retour 40 ans en arrière, puisque la retraite à 60 ans, c'est une loi de 1982 qui avait été faite par François Mitterrand et Pierre Mauroy, mais c'est une promesse d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal l'a confirmé aujourd'hui. Pécresse, Valérie Pécresse pourrait peut-être même lui demander des droits d'auteur, puisque c'était déjà dans son programme. Question qui se pose quand même, l'emploi des seniors, est-ce que ça pose pas question, sachant qu'aujourd'hui à 45 ans, on est considéré par nombre d'entreprises comme trop vieux pour travailler? D'où notre premier débat, faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans? Et vous êtes 15,2% à dire oui. Avec nous, Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT. Céline Verzelletti, bonsoir.
Bonsoir.
Finalement, Emmanuel Macron avait promis une réforme des retraites sur le premier quinquennat, enfin sur son quinquennat. Il ne savait pas en 2017 qu'il y en aurait peut-être un second. Pas de retraite. La réforme des retraites, pardon, sera plus dure dans le second que s'il en avait fait une dans le premier, à votre avis?
Bah, écoutez, c'est vrai que lors de son premier quinquennat, il a voulu nous imposer une réforme systémique, comme on dit, c'est-à-dire changer complètement le système de répartition des retraites. Ça devait être un régime par points. Selon ses dires, ça devait permettre d'effacer toutes les inégalités. Et d'ailleurs, c'était vraiment argument contre argument, à part qu'il y a eu de fortes mobilisations, ça c'est une chose, mais aussi tous les sondages montraient que la majorité de la population était défavorable au projet qu'il proposait. Donc il abandonne complètement ça, c'est tant mieux et c'est très bien, et ça prouve qu'on a eu bien fait de se mobiliser. Ça c'est une chose, parce que justement, à l'inverse de ce qu'il pouvait dire, son régime par points allait exacerber encore plus les inégalités. Mais maintenant, et on l'avait dit aussi d'ailleurs à l'époque, hein, que le but quand même, malgré tout, de sa réforme par points, c'était de nous faire travailler plus longtemps. Il nous avait dit non, c'est pas du tout ça, c'est pour effacer les inégalités. On voit bien que son objectif systématique, et je dirais son obsession, c'est de faire toujours travailler plus longtemps les travailleuses et travailleurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils travaillent ou elles travaillent, et quelle que soit, je dirais, la pénibilité du travail. Et ça, c'est pas possible, et nous, on l'acceptera pas, et je pense qu'une partie, une grande partie de la population ne l'acceptera pas, et on a bien raison de pas l'accepter, parce qu'en plus, en tout cas, nous, à notre avis, à la CGT, rien ne justifie de devoir travailler plus longtemps, si ce n'est de ne pas vouloir remplir en effet les caisses de la sécurité sociale et en effet voir et revoir les cotisations sociales, c'est-à-dire ce qui est issu de la production des richesses et sur les lieux de travail. C'est sûr que si on ne veut pas à nouveau renflouer les caisses de la sécurité sociale, il y a un problème. Et nous, on pense que justement, il faut remplir, on va dire, les caisses de la sécurité sociale pour permettre aux uns et aux autres de partir suffisamment tôt à la retraite, parce qu'à un moment donné, on a quand même le droit à du repos et de la retraite. Et comme dit bien la chanson, la retraite, c'est aussi la santé. On n'a pas, nous, envie de mourir au travail.
Philippe Bilger.
Madame, comment dire cela? Vous l'avez un peu évoqué au début de votre propos. Il est clair qu'Emmanuel Macron propose cela parce qu'il a abandonné l'idée de la retraite par points et qu'il propose quelque chose qui apparaît plus banal. Mais puis-je vous poser une question sans provocation? J'ai bien conscience qu'il y a une multitude de métiers et d'activités infiniment pénibles qui, naturellement, imposent qu'on quitte le travail le plus tôt possible. Mais pour la plupart des gens, quelle explication trouvez-vous à cette volonté de vous opposer à une durée du travail qui, avec l'allongement de la progression de vie, pourrait apparaître non pas comme une tare, un handicap, mais parfois même une richesse?
Céline Verzelletti.
Oui. Alors déjà, vous parlez d'espérance de vie. Bon, vous avez raison, parce que ça doit quand même être un des critères pris en compte, on va dire, pour le départ à la retraite, quoique, pas que. Pour ceux qui partent plus tôt, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, qui ont une pénibilité avérée, c'est ce qui est pris en compte, d'ailleurs. C'est parce que ce sont des professionnels, et c'est prouvé, les chiffres le prouvent, ce sont des professionnels qui ont des métiers particulièrement difficiles, qui souvent travaillent la nuit, et qui ont donc une espérance de vie moindre. Maintenant, si on prenait ça à chaque fois, je peux vous dire que, par exemple, les ouvriers partiraient beaucoup plus tôt à la retraite que les cadres, parce que là aussi, il est avéré que les ouvriers ont une espérance de vie moindre que ceux des cadres. Ça, c'est une chose. Après, moi, je pense que aujourd'hui, il faut voir la réalité des choses. C'est-à-dire, ça a été un petit peu dit tout à l'heure, c'est où en est l'emploi des seniors. Aujourd'hui, à partir de 48-50 ans, déjà, il y a des problèmes d'emploi, mais à partir de 58 ans, à peu près, me semble que je ne me trompe pas sur les chiffres, il y a à peu près un salarié sur deux qui n'est plus en emploi. Soit ce salarié est privé d'emploi, soit il est en invalidité, mais ça veut dire qu'à 60 ans, vous avez donc un salarié sur deux qui n'est plus en emploi. Alors, à quoi il faut qu'on m'explique, si on ne résout pas le problème de l'emploi, des seniors, mais aussi des jeunes, si on ne résout pas la revalorisation salariale d'ailleurs aussi, pourquoi reporter l'âge de départ à la retraite? Parce que finalement, ce qu'on ne va pas payer d'un côté, on va le payer de l'autre, puisque si ce n'est pas la sécurité sociale, ça sera de toute manière… En tout cas, ça sera soit on prend en charge un privé d'emploi, soit on prend en charge un retraité. Enfin, je ne vois pas trop bien le pourquoi de rallonger, alors qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'emploi, par exemple.
Boris Faure, syndicaliste lui aussi, mais pas à la CGT.
Non, effectivement pas à la CGT. Et donc, c'est-à-dire que ce qu'il faut, à mon avis, c'est regarder l'efficacité possible ou l'inefficacité de la réforme et se placer sur un terrain économique, hein, puisqu'il s'agit quand même de faire vivre, de continuer à faire vivre notre système de répartition. Et effectivement, là où je suis d'accord avec madame de la CGT, c'est que le taux d'activité des seniors, en tout cas, j'ai vérifié le chiffre, au-delà de 55 ans, il y a deux fois plus de chômage dans cette catégorie-là de salariés. Autrement dit, la France a un problème avec ses seniors. Elle ne sait pas, ou mal, donc je pense que les entreprises notamment, font parfois du jeunisme, et donc ont du mal en fait à utiliser les seniors comme ils doivent l'être. Et donc, augmenter la durée de travail, ça peut être simplement augmenter la précarité si, au lieu d'employer plus de seniors, on crée plus de chômeurs. Donc en fait, des chômeurs qui devront être indemnisés plus longtemps, puisque la durée de l'âge légal augmentera. Donc, au fond, je pense que cette réforme, elle est absolument contestable pour son économie, vous voyez.
Céline Verzelletti.
Oui, oui, tout à fait. Et puis après, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait juste de demander aux travailleurs de travailler plus longtemps, parce qu'à un moment donné, si on revalorise les rémunérations, et ça, c'est un sujet brûlant aujourd'hui, on le voit, hein, avec l'inflation, on a un pouvoir d'achat qui est de plus en plus bas. Si vous revalorisez les rémunérations, vous augmentez de fait les cotisations, ce qui permet de renflouer les caisses. Si vous avez une vraie politique industrielle et une politique de développement de services publics, vous allez aussi sur de l'emploi. Avoir une politique de plein emploi, ça serait aussi utile. Et là, c'est pareil, vous avez de nouveaux cotisants et donc vous renflouez les caisses. C'est ce choix-là, nous, en tout cas, qu'on préconise, et non pas de toujours vouloir, en tout cas, finalement, épuiser les caisses, parce que, pour le coup, ce que le gouvernement fait et n'a eu de cesse de faire, c'est d'exonérer les cotisations sociales, d'exonérer le patronat des cotisations sociales, ce qui a pour effet de vider les caisses de la sécurité sociale, notamment. Et après, de demander aux travailleurs et travailleuses qui, eux, n'ont pas fait ces choix-là, de travailler encore plus longtemps, alors qu'on le voit, ils sont de plus en plus épuisés. Et encore plus aujourd'hui, et surtout après la pandémie qu'on a vécue. Donc, moi, je veux bien qu'on demande aux infirmières, aux aides-soignantes, par exemple, de travailler jusqu'à 65 ans, alors qu'elles sont complètement épuisées dès 50 ans, avec tout ce qu'on leur demande, par exemple. Aujourd'hui, c'est un simple exemple. Mais franchement, ce n'est pas sérieux. Et ce n'est sûrement pas ça dont on a besoin aujourd'hui et ni même demain. Il y a d'autres urgences. Et les urgences aujourd'hui, c'est les revalorisations salariales et c'est l'emploi des jeunes, par exemple.
Lydia Guirouz.
Moi, je pense que c'est une réforme qui est assez pragmatique, parce qu'on ne pourra pas tenir longtemps sans la faire. Ça fait déjà plusieurs années, plusieurs mandats, en fait, qu'on la repousse. Et je me demande si derrière cette proposition que fait Emmanuel Macron, il n'y a pas une lecture un peu de politique politicienne, c'est-à-dire s'il n'envoie pas un gros clin d'œil très appuyé à l'électorat de droite, parce qu'avant Valérie Pécresse, c'était quand même François Fillon, donc c'était plutôt des candidats qui sont des libéraux, qui ont porté cette proposition de la retraite à 65 ans. Donc je me demande s'il n'y a pas plutôt, en période préélectorale, une stratégie donc politique, électoraliste, pour aller chercher ceux qui sont encore chez Valérie Pécresse, qui sont des fillonistes, il y a encore une réserve de voix fillonistes à aller récupérer, qui sont les hésitants et qui pourraient venir à La République En Marche, parce qu'aujourd'hui, La République En Marche arrive à élargir de la gauche républicaine, avec ses ralliements de gauche, Rebsamen, Madame Guigou, jusqu'à une partie de la droite plus modérée. Peut-être essaye-t-il d'aller chercher encore plus loin à la droite.
Céline Verzelletti, il y a des arrière-pensées politiques, comme le dit Lydia Guirous, à cette proposition en début de campagne électorale pour Emmanuel Macron?
Bah alors après, bon, moi, je certainement, voilà, on sait qu'on est dans des... Oui,
ça existe, des arrière-pensées politiques en période électorale, quand même.
C'est clair, mais enfin, nous, après, nous importe peu les raisons, ce que nous... Alors après, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, de manière, a été... Et toujours sur des stratégies quand même comme ça, politiciennes, sur des postures. Et c'est pour ça que c'est très difficile en termes de dialogue social aussi avec Emmanuel Macron ou le gouvernement. On a vécu ça tout le quinquennat, c'est-à-dire que par exemple par rapport à son régime par points, il était à un moment donné sur une posture qui n'avait plus rien à voir avec des réponses à apporter à la population. Et moi, il me semble qu'en tout cas, au moins quand on est président, là, après, quand on est présidentiable et qu'on est dans une campagne, c'est autre chose. Mais il est encore président. Quand on est président, on se doit d'œuvrer pour répondre aux préoccupations de la population. Et c'est absolument pas ce qu'il fait. Et c'est bien ce qu'on lui reproche depuis le début de son quinquennat. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'a absolument pas, il n'a rien retenu de son quinquennat. Et je pense que s'il fait la campagne et que son programme ressemble à ce qu'il a pu faire tout son quinquennat, c'est un très mauvais signe. Et on va encore au-devant de multiples mobilisations et il va accroître un peu plus la colère d'une grande partie de la population. Et ça, c'est vraiment dommageable, je pense.
Le sujet fait beaucoup réagir au 0826-300-300. On a un agriculteur avec nous. Tout d'abord, bonsoir Paul du Lot-et-Garonne.
Oui, bonsoir Philippe. Bonsoir à Philippe Bidger, à Lydia et
à Boris.
Bonsoir.
Bonsoir. Voilà. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et à la syndicaliste de la CGT. Non, moi je pense qu'il faut revenir à la réalité, c'est-à-dire qu'il faut une retraite qui soit calculée par rapport à un nombre de trimestres cotisés et pas par rapport à un âge, parce que les gens qui commencent tôt, il faut qu'ils partent plus tôt, parce que les gens qui commencent tôt, ils sont usés plus tôt, c'est obligatoire, et les gens qui commencent plus tôt en général, c'est parce qu'ils n'ont pas trop de qualifications, on travaille dans des métiers difficiles. Moi je suis agriculteur, je commençais à 14 ans et demi, donc je ne me vois pas aller à 65 ans malgré que je travaille à mon compte. On fait beaucoup d'heures. Et ensuite, je pense qu'une réforme des retraites, il faudrait commencer par le haut. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires devraient commencer par... Il faudrait modifier la retraite des hauts fonctionnaires, la réforme des politiques. Et ensuite, je pense qu'il va falloir réformer le système de cotisation parce qu'on ne peut pas tout faire peser sur le travail. Parce que la syndicaliste dit qu'il faut augmenter les cotisations et tout et tout. Moi, je suis agriculteur, j'ai des salariés. Faut savoir quand même qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et que les salaires, c'est très, très, c'est une charge énorme. Avec un salaire chargé, c'est énorme. Donc moi, je pense qu'il faudrait aller vers des cotisations peut-être prises avec un point de TVA ou autre pour vraiment pérenniser le
système. La TVA sociale, comme a fait l'Allemagne.
Voilà, c'est ce qu'on avait proposé, nous, la coordination rurale, depuis des années. Je pense qu'il faut aller vers là, parce que comme ça, tout ne reposera pas sur le travail, et ça permettra d'avoir des retraites plutôt décentes, et on pourra peut-être enfin avoir de l'équité, parce que c'est trop difficile d'aller faire travailler les manœuvres jusqu'à 65 ans, et voir des hauts fonctionnaires qui peuvent partir à 50 ans ou 55 ans, avec des retraites énormes, quoi. Ça va pas. Et en plus, ces retraites-là sont payées par l'État. Donc, à un moment donné, ça faut que ça commence par là, quoi.
Alors, merci beaucoup, Paul. La vision d'un chef d'entreprise agricole, et on a une chef d'entreprise, pas agricole, qui nous appelle, direction l'Eure-et-Loire. Bonsoir, Marie-Christine.
Bonsoir, bonsoir Philippe. Bonsoir à
vous. Et vous êtes d'accord avec les 15,4% d'auditeurs qui veulent passer l'âge de la retraite à 65 ans?
Bien entendu. D'ailleurs, je me le suis appliqué à moi-même pour commencer. puisque j'ai pris ma retraite à 70 ans. Bon, évidemment, je ne portais pas des sacs de ciment, mais j'avais un travail de bureau très difficile parce que quand on est chef d'entreprise, eh bien, on travaille 10 heures par jour, et puis les week-ends, et etc. Donc, avec beaucoup de stress en plus. Mais pour en revenir à l'historique des retraites, moi, je pense que il faut, quand j'entends dire que rien ne justifie de repousser l'âge de la retraite, ça me fait hurler. Un peu de pragmatisme, s'il vous plaît. Il faut savoir quand même que lorsque les retraites ont été créées, d'abord il y avait 5 cotisants pour un retraité, qui avait eu des études de fait, et à l'époque...
Alors, je vous coupe, quand Bismarck a mis la retraite au point en Allemagne, il avait dit à quel âge meurent les gens, on lui a dit à 66 ans, bah donc ils auront la retraite à 65 ans. Parce que l'espérance de vie était de 66 ans, donc au moins c'était pragmatique, il n'y avait pas de problème de financement.
Mais c'est exactement ce qui s'est passé en France, mais à l'époque, c'était 68 ans, je crois. Donc ça avait été créé, enfin ça avait été fixé à 65 ans. Et encore une fois, avec 5 cotisants. Aujourd'hui, on est à 2 cotisants par retraité. C'est absolument insupportable, d'autant plus qu'on tend un peu vers 1 cotisant pour un retraité. Là, ça va être totalement insoutenable. Et puis, on ne peut pas continuer à rester 30 ans sans rien foutre. C'est pas possible.
Alors Marie-Christine, merci beaucoup. Céline Verzelletti, vous avez entendu deux entrepreneurs qui ont des points de vue différents. Alors, moi, je vais prendre le premier cas. C'est vrai que quand on a commencé à 14 ans, Paul qui nous dit qu'il faut que ce soit au trimestre, que c'est sûr que quand on a commencé à 14 ans en portant des sacs ou en taillant des vignes, etc., ce sont des métiers difficiles en plein air, là, partir à 65 ans, c'est pas possible. Mais il y a aussi le côté que dit Marie-Christine, s'il y a maintenant un cotisant pour un salarié, c'est-à-dire qu'on va tellement vous pomper sur votre salaire brut, entre votre brut et votre net, qu'il ne va rien vous rester pour vivre.
Non, mais c'est clair, c'est pour ça que ce que je disais au départ, c'est qu'il y a un problème d'emploi à régler aussi, et c'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui. En tout cas, nous estimons que les politiques menées ne permettent pas justement de développer de l'emploi. Mais bien évidemment que plus vous allez avoir des travailleurs et travailleuses, plus vous aurez des cotisants, et c'est comme ça que vous allez renflouer les caisses. Moi, je suis très pragmatique aussi, hein, il n'y a pas ceux qui seraient pragmatiques et qui disent toujours la même chose, et souvent c'est les employeurs, c'est... Bien évidemment, ils ne veulent jamais payer de cotisations sociales. Il ne faut absolument pas qu'on renfloue les caisses de sécurité sociale avec les richesses qui sont produites dans les entreprises, parce que voilà, ça s'est pris sur les richesses. Mais c'est bien la répartition des richesses dont il s'agit. Moi, je suis désolée, mais les entreprises du CAC 40, pendant la période de 2020-2021, c'est-à-dire pendant la pandémie, elles ont engrangé près de 140 milliards de profits. Et les trois quarts ont été versés en dividendes aux actionnaires. Pourquoi on ne prendrait pas une partie de ces grands profits pour justement remplir et renflouer les caisses? Ça, c'est une première question. Pourquoi c'est toujours les travailleurs et travailleuses à qui on demande de faire des efforts? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les inégalités sociales explosent, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et on va toujours demander aux mêmes de faire des efforts, c'est-à-dire à ceux qui travaillent aux plus pauvres de soit travailler plus longtemps, soit de ne pas avoir de revalorisation salariale parce que ça coûte toujours trop cher, donc d'exercer des métiers à forte pénibilité. L'employeuse, enfin la personne qui a parlé tout à l'heure, elle est partie à la retraite à 70 ans, mais elle le sait elle-même. Je le redis, les ouvriers et les employés, aujourd'hui, ils ont une espérance de vie moindre que les cadres et hauts cadres. Donc, est-ce qu'on doit le prendre en compte, ça? Mais nous, on pense que oui. On n'a pas tous le même métier, on n'a pas tous la même pénibilité.
Merci beaucoup, Céline Verzelletti, dirigeante confédérale de la CGT. Verdict sur Twitter. Faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans? Vous êtes 15,3% à dire oui. Ça vous dit tout de suite une chronique présidentielle de Philippe Rossi,
les vraies voix.
Et ben c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guiraud, c'est Boris Faure. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi.
Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Il Et mon cher Philippe Rossi, Valérie Pécresse n'a pas le droit à l'erreur ce soir face à Éric Zemmour.
Et non, c'est le débat de la dernière chance pour la candidate LR qui, on peut le dire, patine dans les sondages. Crédité de 17,5% il y a 3 mois, Valérie Pécresse est aujourd'hui entre 11 et 11,5% selon les instituts de sondage.
Qu'est-ce que tu me racontes là ?
Ben oui, c'est pourtant vrai, hein. 11,5%, mais Valérie Pécresse compte bien se refaire une petite santé ce soir face à Éric Zemmour. Puisque ce soir, si ça vous a échappé, les deux vont s'affronter sur le plateau de TF1, puis celui de LCI. Et Valérie Pécresse compte bien sur ce débat pour rebooster sa campagne, pour redécoller dans les sondages. C'est ce qu'espèrent aussi ses conseillers. Face à Zemmour, elle peut montrer son caractère, sa ténacité, et faire la différence. C'est ce qu'explique le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Pogé. Pour le député du Vaucluse, Julien Aubert, beaucoup s'attendent à ce que Zemmour la croque, mais s'il ne la croque pas, une autre page s'ouvre. Voilà ce que pensent les conseillers de Valérie Pécresse. Quant à Éric Zemmour, lui aussi, eh bien, il attend beaucoup de ce débat. Le candidat veut finir de séduire les électeurs de François Fillon de 2017. Et pour ce soir, Zemmour a un objectif. Voilà ce qu'a dit un cadre de Reconquête. Il veut une victoire par chaos. Il veut la terminer. Eh oui, c'est violent quand même, hein. Il veut la terminer. Ah oui. Il a rajouté, il veut la faire descendre à 8%, il n'y aura pas de cinéma. C'est ce qu'a dit Éric Zemmour. Alors, comment Valérie Pécresse et Éric Zemmour préparent ce duel ? La candidate LR, elle, fait depuis quelques jours des exercices de training. Elle a travaillé avec son équipe.
Elle a changé par rapport à l'équipe qui a préparé le Zénith.
Alors, j'espère pour elle.
Oui,
j'espère
c'est
pour
ce que
elle.
Je me demandais.
Quelques-uns de ses collaborateurs.
Comme le PSG avec l'entraîneur, il faut se poser des questions.
Quelques-uns de ses collaborateurs ont été chargés de lui lancer des questions en jouant le rôle d'Éric Zemmour. Valérie Pécresse a également visionné des émissions de débat avec Éric Zemmour. Vous avez vu, Pécresse, elle s'entraîne. De son côté, le patron de Reconquête, lui, s'est enfermé dans ses bureaux, à son quartier général de campagne, dans le 8e arrondissement de Paris. Il a minutieusement préparé ce débat avec 3 de ses plus proches conseillers, Julien Madard, Jonathan Nadler et... Eh oui, Sarah Knafo, sa conseillère et sa compagne. Zemmour, Pécresse, le débat, c'est ce soir. Tiens, les vraies voix. Quels conseils donneriez-vous à l'un et à l'autre ? Tiens, Philippe Bilger. Si vous aviez un conseil à lui donner.
Alors Éric Zemmour, mon cher Philippe, sera confronté à une difficulté. Non pas celle de contredire Valérie Pécresse, il le fera très bien, mais de la contredire avec modestie et courtoisie, puisque il attache de l'importance à ne pas dégrader son image mauvaise à l'égard des femmes. Et du côté de Valérie Pécresse, il est clair, on sait très bien ce qu'Éric Zemmour va lui reprocher. Et il ne faut pas qu'elle compte trop sur son équipe de campagne et sur ses coachings qui ne servent à peu près à rien. Qu'elle soit elle-même, qu'elle tente d'être intelligente et pugnace. Et on verra le résultat.
Et voilà les conseils de Philippe Vedger. On verra ce soir. Tiens, Philippe, on débriefera avec vous demain.
Et mon cher
voilà,
Philippe aussi, Nicolas Sarkozy refuse toujours de soutenir publiquement Valérie
Pécresse. Oui, alors très compliqué pour Valérie Pécresse d'obtenir, allez, pas un soutien franc, on n'en est pas là, mais un petit mot d'encouragement quand même de l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy s'est exprimé juste avant le grand oral des candidats devant les sapeurs-pompiers de France. Et Nicolas Sarkozy, eh ben, s'est bien gardé de soutenir la candidate des LR. Écoutez.
Eh bien moi, d'ailleurs, l'idée de donner aux candidats ou à leurs représentants qui viendront s'exprimer, quelques conseils que cela soit, l'expérience des autres, c'est une lanterne qui éclaire derrière. C'est à eux de vous séduire, de vous convaincre. Ils réussiront ou ne réussiront pas.
Et voilà, j'ai envie de dire, tant pis pour Valérie Pécresse. Ouais. Hein, c'est à elle de vous séduire, de vous convaincre. Oui, Philippe ?
Elle ne lui a pas passé assez de pommade. Hein.
Voilà, ça doit être ça. Alors pourquoi ? Parce qu'il la trouve trop mauvaise ou parce qu'il aime trop Macron, selon vous ? Tiens, en quelques mots, Boris Faure, juste après Lydia.
Pas assez de brosse à reluire.
Je pense que de toute façon, il est tellement narcissique que c'est très difficile pour lui d'admirer quelqu'un, même de soutenir. Donc voilà, il paraît qu'au demain, c'est un garçon dans le privé sympathique. Voilà.
Paraît-il. Lydia Guérouse.
Non, je pense que déjà, il est très sympathique, mais je crois qu'en fait, comme il l'a dit, il n'est pas séduit par la campagne de Valérie Pécresse. Ouais. Il n'est pas convaincu par la campagne de Valérie Pécresse. Et je crois que tout observateur un petit peu objectif voient que cette campagne n'est pas une bonne campagne, que ça ne prend pas et qu'il y a un manque de constance. Il y a même parfois eu des dérives avec ce terme de grand remplacement qui, moi, m'avait profondément choqué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy n'apporte pas son soutien. Quant à la brosse à reluire, elle l'avait passée. Elle avait même été avant le Zénith le voir. Elle lui avait dit à quel point il était formidable. Mais Nicolas Sarkozy n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'en 2015, lors des régionales, elle avait dit qu'il n'était pas le bienvenu et qu'elle ne voulait pas de son soutien. Ben voilà.
C'est pas faux, c'est la réponse du berger.
C'est la mémoire.
C'est plus la brosse en chien dent que la brosse à reluire. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat des personnalités politiques demandent aux Français de moins se chauffer. Est-ce indécent? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie. Lydia Guirous, essayiste, auteur du livre « Assimilation », « En finir avec ce tabou français » publié aux éditions de l'Observatoire. Et enfin, Boris Faure, républicain, laïque et syndicaliste. À 18h30, notre grand débat. Des personnalités politiques demandent aux Français de moins se chauffer. Est-ce indécent? Vous êtes 91,4% à dire oui, surtout Twitter, voulait réagir. Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Ça va les vraies voix?
Très bien.
Très bien. Mais il fait très chaud dans le studio.
Ah, ça,
hein.
C'est vrai. Là, on pourrait baisser de 2.
Ben voilà,
pas de problème.
Vous allez faire des économies dès ce soir.
On devrait éteindre la lumière aussi, peut-être. Pour faire des économies.
Mais comme on est filmé, ce serait dur de nous voir. Ou alors, il faut mettre les éclairages rouges, etc. Notre ami Jamel, c'est parfait pour faire.
Jamel, on va faire.
On se croirait en discothèque.
D'ailleurs, elles ont rouvert. Ça fait du bien, même si on n'y va plus, vu mon grand âge. Ça vous dirait un tour de table de l'actualité de Boris Faure?
Ah oui.
Eh ben c'est parti.
Ah oui.
Les vraies voix Sud Radio.
Et vous voulez parler, mon cher Boris, de l'Europe et des réfugiés ukrainiens?
Oui, les images de la guerre, les images du malheureux peuple ukrainien, elles sont partout, mais la solidarité, elle, n'est pas absolument partout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe? On a 2 millions, en fait, de réfugiés ukrainiens qui se sont enfuis, ont quitté leur pays, contraints et forcés. Et il y en a la moitié, 1 400 000 à peu près, 1 300 000 en Pologne. Et ce qui se passe en Pologne, et je voulais alerter les auditeurs et auditrices de Sud Radio ce soir, ce qui se passe en Pologne est formidable. C'est-à-dire que l'aide européenne dont on parle tous les jours, elle n'est pas arrivée parce que l'aide ne peut pas arriver comme ça par magie. Eh bien, ce sont les Polonais eux-mêmes qui, en ce moment même, ouvrent leurs portes pour accueillir, héberger gracieusement les réfugiés ukrainiens. Les Polonais, aujourd'hui, prennent leur voiture et convoient, vont chercher à la frontière ukrainienne des familles pour les convoyer, parfois sur des centaines de kilomètres. Alors, je lance ce soir un appel à la solidarité, à toutes les personnes qui sont comme moi sensibilisées à ce qui se passe dans cette partie-là de l'Europe. Allez sur le site Service Public, vous verrez, il y a une longue liste d'associations, la Croix-Rouge en particulier, et simplement donner. Et ne donnez pas simplement maintenant où l'émotion est à vif, mais préparez-vous à donner pendant un certain temps parce que les deuxième, troisième, quatrième vagues de réfugiés arriveront. Et il faut que la solidarité vive dans le long terme. Voilà, merci à vous.
Philippe Bilger.
Je suis d'autant plus sensible aux propos de Boris Faure, au risque de le détourner, que j'aime bien que ce pays qui est la Pologne, en définitive, qui a fait l'objet d'un opprobre tout à fait discutable du sectarisme européen, montre à quel point il est capable d'être généreux. Et donc, merci Boris de le rappeler et éventuellement de demander que ce pays suscite des exemples. Parce qu'en général, on est toujours généreux avec le cœur des autres. Le dis pour moi-même d'abord.
Lydia Guirous.
Oui, les Polonais font preuve d'une grande solidarité. On a tous vu ces images avec des familles qui se rendaient à la frontière pour accueillir des personnes qui fuyaient la guerre. C'est vraiment de très belles images. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir que de ce côté-là de l'Europe, il y avait un sens de l'accueil des réfugiés de guerre. Mais là, sans doute, le fait que ce soit à proximité et qu'ils pensent que c'est peut-être l'Ukraine et l'étape avant que la Russie et Vladimir Poutine puissent peut-être attaquer ensuite la Pologne amène à avoir cet élan de solidarité. Ils se disent que ça peut leur arriver. Gérald Darmanin a indiqué qu'il pouvait y avoir jusqu'à 10 millions de personnes déplacées et réfugiées. Il y a déjà des familles qui sont arrivées en France.
J'ai eu quelqu'un qu'on connaît dans Les Vraies Voix, que j'ai eu au téléphone avant l'émission. Elle était à Varsovie. On peut dire qui c'est Anne Mazoyer, qui est d'origine polonaise, qui me disait qu'en Pologne, il se préparait à accueillir 5 millions de personnes, a priori.
Bien sûr.
Elle était en direct d'une gare de Varsovie. Elle me dit, Philippe, il y a un monde, c'est incroyable.
Et en France, donc, y a déjà des familles qui sont arrivées. Il y a beaucoup de villes qui s'organisent pour essayer de les accueillir au mieux, avec des familles qui sont bénévoles, avec des dons. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'il y avait déjà des enfants qui allaient être scolarisés, qu'ils auront accès aux aides sociales aussi pour qu'ils puissent vivre assez dignement. Alors, ce qui rassure, c'est que beaucoup se disent que ce sont des personnes qui veulent fuir la guerre pour se protéger et ensuite retourner chez eux. Mais si le conflit dure et si l'Ukraine est bombardées et détruites, ça va être très difficile pour qu'ils puissent retourner dans leur maison.
Le mot de la fin court,
le
Boris Faure.
Le mot de la fin, c'est que la France d'Emmanuel Macron, donc pour l'instant, offre 3 mois, en fait, à tous les Ukrainiens, un séjour légal et de 3 mois. Voilà, moi, je demande ce que, effectivement, si la crise se prolonge, eh bien qu'on allonge et qu'on permette aux gens, à un moment, de travailler, effectivement, d'être scolarisés aussi, comme tu le disais, Lydia.
Alors, un tout petit mot, savoir, Boris, à quel jeu joue la Grande-Bretagne, puisqu'il y a eu une polémique indiquant que la Grande-Bretagne refusait de prendre aussi des réfugiés ukrainiens et qui se retrouvent aujourd'hui bloqués à Calais.
Écoute, seul un Britannique pourrait te répondre, parce que je n'ai jamais compris les Britanniques, donc je ne sais pas ce soir.
Je ne comprends pas non
que,
plus, voilà. Et je ne comprends pas, il y a une forme d'hypocrisie quand même de leur part, ne pas vouloir accepter des familles et des jeunes qui se retrouvent coincés à Calais, alors qu'ils fuient la guerre, c'est assez scandaleux.
D'autant que les Polonais, qui sont très pragmatiques, accueillent aussi des Ukrainiens, leur donnent des visas de travail, parce qu'il y a des gros besoins dans le secteur de la restauration et des bars, et donc ces gens-là vont travailler. Je pense que l'Angleterre aurait des besoins.
Et ils parlent très bien l'anglais.
Incompréhensible.
Les vrais voix à 18h14. Dans quelques instants, on va parler du cataclysme d'hier au soir pour le PSG. C'est probablement la fin d'une ère, surtout.
Encore ?
Qu'il y a eu. Bah, c'est le tour de table de Philippe Bilger, surtout qu'il y a quand même eu une altercation avec les arbitres et avec entre pas n'importe qui, le président et le manager général du club, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Et on va en parler avec Clément Pernia, auteur de PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand et une histoire populaire du PSG 1970-2020. Restez bien avec nous et les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Vinicius, faut intervenir Marquinhos, Benzema ! Mais c'est incroyable ! Mais c'est quoi cette histoire ?
Le ciel est tombé sur la tête du
Paris Saint-Germain !
Et oui, le dernier but de Benzema, moins de 2 minutes après le second. Il a réussi un coup du chapeau. Les supporters du PSG chantent « Paris est magique », là ce serait plutôt « Paris est tragique ». 150 minutes dominées sur 180 et tout bascule sur une faute, j'allais même dire un crime contre l'équipe de Donnarumma. Et ce n'est pas tout. Le rapport de l'arbitre qui dit que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont tenté de rentrer dans leur vestiaire en mettant un coup de pied dans la porte et en brisant un drapeau d'arbitre assistant. C'est ce que dit la presse. Tout est résumé par Yannick Noah.
J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps. J'en ai marre.
Et j'en ai marre aussi, nous sommes avec Clément Pernia, auteur de PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion, et son prochain ouvrage, La République du foot, sort ce mois-ci. Bonsoir Clément Pernia.
J'en ai marre.
Alors depuis 5 ans, pratiquement jour pour jour, on connaissait la remontada, on connaît désormais la suicidada sur le terrain et dans les vestiaires.
C'est exceptionnel, Chaque année, on se dit que tous les scénarios ont été établis, que Paris a tout fait, a tout produit, a tout inventé. Puis à chaque fois, il y a une nouvelle perte. Cette saison, c'est de dominer 160 minutes une équipe qui n'arrivait presque pas à la cheville du PSG. Et puis se suicider en 10 minutes en donnant Marquinhos, Donnarumma, puis Neymar, un but chacun à Benzema. C'est hallucinant, c'est dantesque, c'est rocambolesque. C'est presque mérité. Pourquoi c'est mérité ? Eh bien parce que le PSG ne respecte pas le football depuis le début de saison. Le PSG se dit qu'il suffira d'appuyer sur l'interrupteur et d'élever son niveau de jeu le jour J pour se qualifier en Ligue des Champions. tout en dénigrant la Ligue 1, la Coupe de France, les matchs nationaux. Et au final, ce soir, le PSG paye son manque de professionnalisme, paye son manque d'investissement, paye sa politique sportive générale. Et il va falloir bien réfléchir, tout reconstruire, tout balayer pour avancer.
Philippe Bilger.
Clément, je vois avec plaisir qu'on traite des sujets importants aux vraies voix de ce soir. Ça me fait plaisir. plus sérieusement, Clément, est-ce que vous ne trouvez pas, et j'ai bien conscience de forcer le trait, mais je pense à la fois au championnat de France et à la Coupe européenne, est-ce que le PSG en permanence n'oscille pas entre une forme d'arrogance, de condescendance et un rebours de total délitement lorsqu'on s'oppose à lui et qu'il commet une erreur? Est-ce que il me semble qu'il manque totalement d'une colonne vertébrale psychologique et sportive? Est-ce que vous partagez ce sentiment?
Clément Perrier.
Alors, je suis complètement d'accord sur la condescendance. Effectivement, on le voit très bien. Quand on voit le match de certaines stars, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets sur le mot star aujourd'hui, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, on se dit que c'est se moquer du monde quelque part. C'est se moquer du monde quand on voit de quoi est capable cette équipe à certains moments. Et sur la dimension psychologique, qui est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais le problème du PSG, je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'autorité.
On est entièrement d'accord. L'institution n'existe pas.
On n'a jamais eu au PSG un entraîneur qui a eu les pleins pouvoirs, qui peut sortir tel joueur, qui peut imposer. Et en fait, on a des joueurs qui ont acquis un certain confort. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Neymar, il était chez lui au Brésil en janvier. Messi, il était à Barcelone deux jours avant. Enfin, il n'y a pas d'autorité. Nasser El-Khelaifi, président du PSG, est ami avec les joueurs. Il y a des statuts qui ont été acquis qui ne permettent pas au club d'avoir une structure, une autorité. Et ça se paye dans les choix sportifs, ça se paye dans le management, ça se paye dans le professionnalisme. Et effectivement, il manque au PSG ce leader. Ce leadership, ça aurait dû être Sergio Ramos, qui, encore une fois, est blessé et n'a pas rempli cette fonction. Hier, on a vu que mentalement, psychologiquement, cette équipe, comme vous l'avez dit Philippe, se délite dès qu'elle est chahutée. Et c'est particulièrement le cas à l'extérieur et ça se répète. Donc hier, on pensait que Marquinhos était ce nouveau leader. Et ben, il nous a fait une Thiago Silva hier, Marquinhos.
Oui. Je constate que Thiago Silva, la saison où il est parti à Chelsea, c'était à cause de lui qu'on perdait. Il a gagné la Ligue des Champions.
Le seul qui a été à la hauteur, et il vient de poster un message il y a 5 minutes, là, c'est Mbappé. Et lui, le PSG s'est trompé parce que c'est autour d'Mbappé et non autour de Neymar et de Messi qu'il aurait dû construire son projet depuis le début.
Évidemment. Boris Faure.
Oui, bon, moi je l'ai dit tout à l'heure, je suis supporter marseillais, mais néanmoins, c'est vrai qu'on ne peut pas être totalement en fait insensible à la détresse des supporters de Paris qui se disaient cette année, c'est la bonne. Et c'est vrai que l'aspect psychologique a été particulièrement... On insiste ici sur ce qui s'est passé hier, sur cette défaillance psychologique, mais je pense aussi, de manière plus large, il y a l'organisation du club, un club quand même très VIP où, rappelez-vous, il y a maintenant une dizaine d'années avec la professionnalisation, les supporters ont été quand même un peu mis de côté. Si je compare avec ce qui se passe à Marseille, nous on a des supporters très présents, parfois trop présents, mais ça crée une forme de pression permanente sur les joueurs et avec l'impératif du dépassement. Parce que quand un smicard va au stade et qu'il a face à lui quelqu'un qui gagne 10 000 fois, 100 000, un smic à la minute, voilà, je crois qu'il a le droit de réclamer des résultats. Et ça, peut-être, il faut qu'ils remettent peut-être quelque chose en place à ce niveau-là, remettre les supporters un peu plus au centre.
Clément Pernia.
Boris de Graaf, oui. N'exagérez pas sur Marseille.
Clément Pernia.
L'exagération est notre métier à Marseille.
C'est complètement vrai ce qui vient d'être dit. Et vous savez, moi je le sais, au club, à tous les étages du club, dans tous les strates du club, il n'y a que des personnes qui ne connaissent pas le football, que ce soit au marketing, à la communication, je les connais, je sais qui sont nommés à ces postes-là, ils ne connaissent rien en foot, ils n'en ont rien à faire du sportif, des supporters, de l'identité, de l'histoire du club, ils sont juste là pour vendre des maillots, avoir des followers sur les réseaux sociaux. Et vous savez, au début du projet Qatari, l'obsession c'était la Ligue des Champions, on parlait beaucoup de Ligue des Champions, mais moi je vais vous dire une chose, c'est plus la priorité, parce que si c'était la priorité des dirigeants Qatari, la Ligue des Champions, ça fait bien longtemps qu'il y aurait eu un un chamboulement et du président et du directeur sportif. Aujourd'hui, l'objectif est tout autre, à mon sens. L'objectif des Qataris, et il est établi, c'est d'avoir une marque mondiale, un club planétaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en NBA, les joueurs de NBA, de basket, quand ils sortent de l'entraînement, ils ont l'équipement du PSG Jordan. Et ça, c'est ça la réussite. C'est ça, pour eux, pour les dirigeants du PSG, ceux qui sont mis en place, le PSG est une marque mondiale, il vend des maillots, il a des followers, il a Messi, il a Mbappé. Voilà, c'est gagné. C'est même plus la Ligue des Champions.
Mais juste
c'est catastrophique.
Mais justement, vous avez parlé du directeur sportif, vous avez parlé du président. Ce qui s'est passé dans le vestiaire de l'arbitre hier soir, ça peut avoir de très lourdes conséquences pour le club.
Oui, et voilà. Et autre problème du PSG, c'est que c'est un club qui ne sait pas perdre. Alors non seulement il a du mal à gagner dans les grands matchs, mais en plus quand il perd, il ne sait pas perdre. On l'avait vu contre Manchester City l'année dernière où on termine avec deux cartons rouges. Il y a trop de nervosité. Mais pourquoi il y a trop de nervosité? Parce qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de cohérence. Et du coup, ça rend tout le monde nerveux quand il y a un petit caillou dans la chaussure. Et hier soir, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, au lieu de s'énerver, parce qu'ils s'énervent parce qu'ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'ils savent qu'ils sont encore plantés comme des je dirais, c'est trois petits points.
Des bleus.
Et voilà, ils sont nerveux. J'espère que je n'y crois pas trop, mais j'espère que du côté de Doha, on envisage un grand chambardement. Parce que là, à l'heure qu'il est, on peut mettre n'importe quel entraîneur du monde. S'il n'a pas le droit de sortir Neymar à la 50e, comme il aurait dû être fait hier, s'il n'a pas le droit de sortir Messi, s'il n'a pas le droit
de sortir à l'heure de
ça
jeu.
Ça ne changera rien. On peut prendre qui vous voulez, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Guardiola sur le banc. Ça ne changera rien. Il faut de l'autorité. Il faut que les joueurs soient à leur place, l'entraîneur soit à sa place et qu'il ait les pleins pouvoirs pour un coach au PSG.
Dernière question, en 30 secondes, Mbappé, il va partir après une affaire comme ça entre un club de losers et un club qui lui dit « tu vas tout gagner avec nous ». S'il reste, il peut écrire un nouveau livre « Le masochisme pour les nuls ».
Eh ben moi, je vais vous dire un truc, Philippe, je pense qu'à sa place, je partirai, vu le professionnalisme du PSG, mais je n'irai certainement pas au Real, qui a montré hier qu'il n'était peut-être pas le club des 3-4 prochaines années. Parce que franchement...
Modric, 36 ans, Benzema, 35, etc. Je vous dis très vite, je pense que le Real qu'on a vu hier face au Bayern, face à City, face à Liverpool, il explose.
Ah bah oui.
Alors là, franchement, il explose.
Moi, j'envisagerais plutôt Manchester ou Liverpool à la place d'Mbappé. Parce que là, autant rester au PSG si c'est pour aller au Real.
Eh bien écoutez, c'est bien, on a la même opinion, donc vous avez raison Clément Pernia. Merci beaucoup Clément Pernia, opérateur de PSG, c'était de l'humour, hein, vous avez compris, évidemment.
Très intéressant.
Auteur de PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion, et La République du foot sort ce mois-ci, c'est un livre sur les politiques et le football. Tout de suite, notre grand débat, bon, on va parler des politiques, des personnalités politiques, demandent aux Français de moins se chauffer. Est-ce indécent? Vous êtes 91,3% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Ce bonheur, si je
le veux, je le rêve. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Nous devons tous faire un effort, tous prendre conscience que nous entrons dans un monde nouveau.
C'est déjà de demander un effort à la population parce qu'aujourd'hui, on a des réserves qui nous permettent de tenir jusqu'au mois de juin.
Tous prendre conscience qu'il va falloir accélérer notre indépendance vis-à-vis d'énergie fossile.
Et donc, il suffirait qu'en fait, on diminue de 2 degrés nos niveaux de chauffage et nos niveaux de consommation de gaz pour faire en sorte qu'on soit sûr de tenir jusqu'à la fin de l'été. Et après, on verra pour la saison prochaine.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Sandrine Rousseau et Bruno Le Maire vous le disent, vous les avez entendus, mettez des pulls chez vous et chauffez moins. Bon, ça ne concerne que les pauvres, hein, les mieux lotis n'ayant pas de problème pour les fins de mois. Eux, ils ne sont pas concernés. Mépris de classe à son summum, Sandrine Rousseau, la nouvelle Marie-Antoinette, vous savez, s'ils n'ont pas de pain, qu'on leur donne des brioches. Et Bruno Le Maire, c'est un peu le nouveau Don Salluste.
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Le propos n'a pas fait l'unanimité, enfin les propos si on compte Sandrine Rousseau, puisque Jean-Luc Mélenchon a réagi, on l'écoute.
Mais je pense que c'est pas la bonne idée, c'est pas, ça tient pas compte des réalités. C'est facile à faire quand on est au chaud et qu'on a la bouche bien pleine. Il y a 12 millions de personnes qui ont déjà froid chez eux. Faut un peu revenir dans le réel, mais ils ne comprennent pas qu'il y a déjà des gens, beaucoup de gens qui ont froid. Oui. Donc allez pas leur dire en plus, allez cette fois-ci carrément dormir dans la rue.
D'où notre grand débat. Des personnalités politiques demandent aux Français de moins se chauffer. Est-ce indécent? Vous êtes 91,2% à dire oui. Avec nous, Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Pollingvox, société d'études et de conseils spécialisée dans les enjeux d'opinion. Son dernier livre, Le Bloc Populaire, publié aux éditions du Cerf. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie.
Bonsoir.
Est-ce que ces propos de Sandrine Rousseau et de Bruno Le Maire ne sont pas de nature à mettre sur le feu, de l'huile sur le feu, d'un feu qui couve déjà dans la société française ?
Oui, certainement. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de débat. On va essayer quand même de faire des distinguos. Admettons qu'on ait une campagne pour chasser le gaspillage, comme on disait, vous savez, en France, après les deux chocs pétroliers, à la limite, à tête reposée, on pourrait dire, ben voilà, il faut peut-être la température idéale dans les appartements, c'est celle-ci et pas celle-là, pourquoi pas. Mais là, c'est une improvisation par rapport à une crise qui est extérieure à la France, et il faut faire, à mon avis, une distinction assez nette entre les deux personnes qui ont tenu ces propos très contestables. D'une part, Sandrine Rousseau, sincèrement, ça n'a pas beaucoup d'importance, elle n'a pas le moindre pouvoir, elle n'est donc pas candidate à l'élection présidentielle et elle est totalement isolée dans son angle wokiste et je pense qu'elle a déjà perdu auprès de tous ceux qui ne sont pas les adeptes de ces théories wokistes le crédit qu'elle pouvait avoir, donc je pense que pour elle, ça ne changera pas grand-chose. C'est beaucoup plus préoccupant de la part de Bruno Le Maire, qui lui est au pouvoir, qui lui est ministre, qui lui est donc redevable en quelque sorte du bien-être des Français et qui semble comme cela reporter sur les ménages, reporter sur les individus qui n'en peuvent mais, eh bien, les problèmes que nous avons compte tenu de la situation internationale et peut-être des décisions que nous avons prises par rapport à celle-ci.
Philippe Bilger.
Jérôme Sainte-Marie, je rejoins la distinction que vous faites entre la responsabilité de Bruno Le Maire et Sandrine Rousseau, qui n'est plus à une incongruité près. Mais comment dire ? Je sais bien que le pouvoir, en général, n'a pas de mal à supporter les maux qu'il inflige à la société. Mais est-ce que vous ne croyez pas tout de même que derrière cet affichage ou cette apparence de mépris, cela ne pose pas un problème un petit peu politique en France? Il me semble parfois que toute nécessité d'un constat, tout réalisme sont obligatoirement affectés par l'accusation de mépris ou de condescendance à l'égard des classes populaires. Alors qu'il peut y avoir des attitudes intellectuelles et politiques motivées par la nécessité et qui probablement n'impliquent pas de la part des responsables politiques un quelconque mépris. Je suis persuadé que, par exemple, Bruno Le Maire n'en éprouve aucun à l'égard des citoyens.
Jérôme Sainte-Marie.
Je vous laisse avec cette certitude qui n'est pas étayée par l'expérience la plus courante, on va dire. Mais bon, pourquoi pas. Mais je ne vais pas développer, malgré quelques exemples assez précis que j'aurai en tête. C'est quand même très curieux, si vous voulez, comment dirais-je ? C'est un aveu d'impuissance du politique absolument fondamental. Je répète ma distinction. Si on avait une réflexion sur, au fond, peut-être que beaucoup de foyers sont trop chauffés. C'est assez probable en plus. Hein. Donc là-dessus, on peut très bien avoir une politique énergétique au long cours et avec une forme de pédagogie pour les Français. Mais là, on est pris à découvert par quelque chose. Et la seule réponse qu'aurait le politique, c'est dire, en réalité, débrouillez-vous. Parce qu'en fait, c'est demander aux gens de basculer dans une forme d'économie de pénurie et sur le chauffage, nous sommes en hiver, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Je vous rappelle encore une fois qu'on a tous ça en tête, hein. J'avais pensé à Marie-Antoinette effectivement, mais on pense bien sûr aux gilets jaunes, on pense bien sûr à la taxe sur le carburant. Je crois que c'est une énorme maladresse, en tout cas ça aura au moins un avantage. C'est puisque nous sommes qu'à quelques semaines du premier tour, enfin, les sujets économiques et sociaux, les sujets de l'élection présidentielle, par ce biais un peu incongru, vont peut-être enfin revenir dans le débat public.
Boris Faure veut réagir.
Oui, ce qui a certainement aussi choqué les Français, c'est un problème d'équité. C'est-à-dire que on sait que 60% de la consommation énergétique est le fait des entreprises et des industries. Et là, le maire ne s'adresse qu'aux Français de base, si j'ose dire. Or, la véritable équité serait de dire, voilà les efforts que je demande aux entreprises et aux industries, et je vous demanderai des efforts peut-être équivalents. Quant à Sandrine Rousseau, le problème de Sandrine Rousseau, c'est que maintenant, elle est dans une posture quasi systématique d'écologie punitive. Elle incarne en fait une sorte de Torquemada en fait de l'écologie. Et même si elle peut dire de temps à autre des choses intéressantes, mais on ne peut plus la suivre en fait. C'est impossible désormais.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, mais là encore, distinction. Sandrine Rousseau tweet tous les jours abondamment sur tous les sujets. C'est assez bon. Voilà. Mais pourquoi pas? C'est devenu une forme d'influenceuse écologiste, si j'ose dire. Chacun s'occupe comme il peut. S'il y a un public pour ça, c'est la liberté des gens. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Encore une fois, la distinction est radicale avec un ministre de l'économie qui doit avoir envisagé ces choses-là auparavant et qui ne peut pas rendre les Français, les ménages français, redevables de leur sort. C'est-à-dire que ces questions tarifaires sont importantes. Alors pourquoi? Parce que avant même la crise en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine plutôt, eh bien, avant même cela, il y avait déjà une explosion des factures en matière d'énergie. Et on sait que beaucoup de ménages, entre les prélèvements obligatoires, entre tout ce qu'il faut faire, c'est la notion ont un budget qui est très fortement contraint. Et donc, on leur dit la seule façon de desserrer ce budget contraint, c'est de réduire. Mais vous savez, après, pourquoi pas aussi de réduire les dépenses alimentaires. Je veux dire, c'est une vie sans fin. Ce n'est pas une réponse, effectivement, qu'on attend d'un homme politique. Dans ce cas-là, je crois qu'il vaut mieux ne rien dire.
Lydia Guirouz.
Bon, avant la crise en Ukraine, il y avait aussi effectivement des problèmes liés au coût de l'énergie qui étaient aussi dus à une crise au niveau mondial. Et cette hausse du prix de l'énergie ne concernait pas que la France. Et le gouvernement essayait de mettre en place des mesures pour essayer de corriger ça dans la mesure du possible, puisque en fait on ne maîtrise pas tout à fait les choses. On subit les conséquences de d'une hausse internationale hein, de ces coûts-là. Je pense que Bruno Le Maire, on peut considérer que c'est une maladresse de sa part, mais là où je m'interroge, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui...
Pourtant, sa grande intelligence était un handicap pour sa carrière politique.
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on est responsable politique? Alors oui, il est ministre de l'économie et des finances, mais est-ce qu'on peut véritablement dire des choses sans que ce soit mal interprété, considéré comme du mépris, considéré comme pouvant être offensant? S'est-il dit quelque chose de l'ordre simplement du bon sens paysan? Et je me demande, si je parle aujourd'hui de bon sens paysan, est-ce qu'on va dire que je méprise les paysans? On est tellement dans une espèce de folie collective, on a toujours peur d'offenser le monde. Est-ce que Bruno Le Maire n'a pas juste parlé avec un peu de bon sens? Et concernant Sandrine Rousseau, je pense que c'est un non-sujet, ses tweets et ses réactions. Mais je voudrais revenir sur Yannick Jadot. Alors, je crois qu'il a tweeté quelque chose d'assez incroyable. Yannick Jadot propose de faire les machines à laver, de faire tourner les machines à laver la nuit.
Oui, c'est moins cher.
Parce que ce serait
moins
cher. C'est au tarif
de nuit courant, oui.
Ah ben, formidable. Là, est-ce qu'on n'est pas dans l'infantilisation des Français? Et par ailleurs, quand on vit dans des immeubles, c'est juste ne pas respecter ses voisins quand on fait tourner la machine à laver la nuit.
À 4h du matin.
Et c'est pas hyper écolo, hein, donc c'est quand même très contradictoire parce que ça consomme la même énergie. Hein, donc je comprends pas ces responsables politiques qui vont à ce niveau de détail et à ce niveau d'infantilisation des Français qui savent quand même gérer leur budget et essayer de faire au mieux pour finir les fins de mois, même si c'est très difficile pour beaucoup d'entre eux.
Jérôme Sainte-Marie, je vous connais bien, je sais que vous n'êtes pas un homme déconstruit, mais que vous faites aussi tourner la machine à laver. Je vous laisse répondre à Lydia Guirouz.
Oui, absolument. Et effectivement, là, on voit la contradiction qui apparaît entre un discours politique qui est de plus en plus intrusif dans la vie des Français, mais en même temps qui prend de moins en moins en charge leurs conditions de vie. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train de faire des commentaires sur le prix des consoles vidéo. On n'est pas en train de faire des commentaires sur le prix des charters pour partir en vacances. On est en train de parler d'une dépense contrainte pour les ménages. Il s'agit là de se chauffer. Personne à ma connaissance, sauf avoir atteint un degré de perversion assez rare, ne s'amuse à consommer du chauffage pour le plaisir. Il n'y a rien de comment dire, de jouissif ou de ludique dans le fait d'être chauffé chez soi. Donc, c'est là où on arrive à quelque chose où, effectivement, si on est impuissant, il ne faut rien dire. C'est particulièrement désolant de la part d'un candidat, Yannick Jadot, qui, en plus, n'est pas interpellé sur le sujet. Il n'est pas redevable de ce problème, et je ne suis pas sûr qu'il le soit jamais. Tandis que, pour un ministre, c'est quelque chose, c'est surtout, je pense, quelque chose de désolant, parce que c'est un incroyable aveu d'impuissance, et en même temps, une forme de, comment dirais-je, d'arrogance, puisqu'il s'agit encore une fois de rentrer, de donner des conseils aux gens. On ne peut rien faire, mais on leur donne des conseils. Dans ce cas-là, il vaut mieux se taire. Alors, je pense qu'on est sur le croisement de deux courbes, en quelque sorte, la moindre capacité de l'État à intervenir concrètement sur la vie des Français et sa propension de plus en plus grande à leur donner des conseils ou des injonctions sur n'importe quel sujet.
Les vraies voix, 18h43, on continue le débat dans quelques instants. Vous êtes très largement majoritaire à dire que c'est indécent de demander aux Français de moins se chauffer. On ira au 0826-300-300 parce que le sujet fait beaucoup réagir dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Boris Force a réagi au 0826-300-300. Je rappelle que vous êtes 91,3% à penser que c'est indécent quand des personnalités politiques demandent aux Français de moins se chauffer. Direction Paris, bonsoir Rosemary.
Oui, bonsoir à tous. Eh bien, moi, je ne trouve pas que ce soit indécent. Je trouve que c'est un début de résistance. Il serait intéressant que nos hommes politiques nous disent vraiment quelle est la situation maintenant. On nous fait croire qu'on est capable de résister à Poutine. Et moi, je crois que nous sommes nus comme des vers. Donc, il faut faire une réflexion pour voir comment on peut s'organiser pour ne pas avoir à subir ce qui se passe en Ukraine. Quant à M. Mélenchon, je crois qu'il ne sait pas faire les calculs. Nous sommes, je n'ai pas regardé exactement, mais approximativement 67 millions de Français. Donc 67 millions moins 12 millions qui se gèlent déjà, ça fait 55 millions. Et peut-être que ces 55 millions peuvent faire un petit effort, en sachant très bien que c'est le minimum qu'il faut que le gouvernement nous dise où on en est et comment on va pouvoir faire pour résister. Poutine a tout calculé. Nous sommes dans une fragilité extrême. Il y a deux pays qui risquent de nous lâcher, c'est l'Allemagne et l'Italie, qui sont dépendants à 40% chacun du gaz allemand.
55% pour l'Allemagne, du gaz russe. 55% l'Allemagne et du gaz russe.
Et 40% l'Italie et nous 20%, donc on arrive à plus de 100%. Mais ceci étant, voilà, nous sommes dans une situation très fragile. Et que pouvons-nous faire pour résister avant que des choses plus graves nous tombent sur la tête? Donc pour moi, ce n'est pas indécent. Quand j'étais jeune, nous portions des pulls dans la maison. Je suis âgée maintenant, je n'en suis pas morte. Et j'ai fait pareil pour mes enfants, qui ont maintenant plus de 50 ans, et qui ne sont pas morts et en pleine santé. Voilà.
Merci beaucoup, Rosemary de Paris. On prend la direction du Lot. Bonsoir, Nelly.
Bonsoir. Merci des vraies voix. Merci vraiment. Alors, juste, et j'apprécie énormément l'intervention de de la personne auparavant, parce qu'en fait, c'est ça. Il faut qu'on fasse tous des efforts. Ce qui nous est proposé comme monde est absolument compliqué, mais au final, il faudrait que les gens apprennent à faire des efforts. Et d'autre part, concernant la personne qui a parlé de l'absurdité de faire des cibles la nuit, je l'informe, cette personne qui n'a pas l'information. Pardon ?
C'est Lydia Guirous.
Oui.
Je reprenais le propos de Yannick Jadot.
Elle reprenait le propos de Yannick Jadot. Oui, hein. C'est pas elle, elle disait ce qu'a dit Yannick Jadot.
Non, mais écoutez, à partir d'1h30 le matin, la nuit, donc du coup.
Oui, du matin, oui.
Nous sommes en heure creuse concernant.
Théoriquement, c'est avant, c'est 22h30 hein, pour la consommation pour moi.
Ben, ça dépend des régions, en fait.
Ah, oui.
Ça dépend des régions.
Ça, c'est le coup.
Donc 1h30, ben moi je programme évidemment, les nouvelles machines ne font pas tant de bruit que ça. Et pour l'effort pour tout le monde, par solidarité, on peut comprendre que son voisin fasse sa machine la nuit. Voilà.
Ah, bien et d'autre sûr, surtout part, quand c'est au-dessus de chez vous.
Bah, quand
on, alors, écoutez, madame, vous mettez un tapis.
C'est très agréable.
Ah, mais le Parisien, ma chère Nelly, vous êtes du Lodge. Voilà, je suis née dans votre très beau département. Les Parisiens, oui, vous savez, on dit que c'est à Toulouse, même les mémés aiment la castagne. Les Parisiens ne sont pas les voisins les plus sympathiques. Ah bah vous êtes parfaite alors.
Je suis née dans la... ouais, vive le Sud. Bon, on a le sens de la résistance. Donc oui, en ce moment, je mets une petite veste, une petite laine en plus pour moins consommer. Voilà, c'est mon effort à moi. Alors, c'est ma façon de résister.
Merci beaucoup, Nelly. On va faire réagir brièvement Jérôme Sainte-Marie. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Rosemary et à Nelly ? Les Français sont résilients ?
Non, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi on devrait faire ça. Est-ce que c'est pour payer moins cher ?
Ben oui,
ou bien est-ce que c'est pour résister ? D'ailleurs, à ce moment-là, résister à quoi réellement ? C'est que, ou bien est-ce que c'est parce que c'est meilleur pour nous-mêmes ? Peut-être qu'effectivement, en moyenne, on se chauffe trop, peut-être que ce n'est pas bon pour la santé, et on ne sait strictement rien, mais certains disent cela. Mais ce qui est un peu embarrassant dans ces déclarations, c'est qu'elles sont faites dans l'urgence, face à une augmentation affolante de la facture et qui n'est pas justifiée. Donc, si vous voulez, chacun est en train de bricoler sa propre explication parce que c'est bon pour la planète, parce que ça coûte moins cher, parce que ça permet de résister à la pression russe, si je comprends bien, ou un truc comme ça. Mais en réalité, ces déclarations sont d'autant plus embarrassantes qu'elles sont données sans considérant, si j'ose dire, sans que l'objectif soit clairement exprimé.
Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Pollingvox, société d'études et de conseils spécialisée dans les enjeux d'opinion, sous votre dernier livre, Le Bloc Populaire, publié aux éditions du Cerf. Verdict sur Twitter, des personnalités politiques demandent aux Français de moins se chauffer, est-ce indécent ? Vous êtes 91,2% à dire oui. Bonsoir Philippe Rossi.
Bonsoir.
Ah bah, on était au sud, dans le Lot, mais là on va encore plus au sud, mais un peu plus à l'est. Direction Montpellier, là-bas une start-up propose le don d'un objet contre un don à une association.
Eh oui, via une application qui s'appelle Troqueur, c'est du troc avec le cœur. Je vous explique, grâce à Troqueur, vous pouvez, bon, par exemple, vous débarrasser de votre vieux canapé ou de votre vieille table. Petite particularité, en refourguant vos meubles, vous faites également une bonne action, car pour finaliser la transaction, celui ou celle qui a craqué pour votre table doit faire un don à une association. Bonsoir Julien Roch.
Bonsoir.
Fondateur de l'application Troqueur, tout est bon, j'ai bien expliqué ?
Oui, c'est ça, bon. Je m'étais apprêté à dire, mais vous l'avez
bon,
fait.
Bon, voilà, très bien. Vous avez lancé votre application il y a 3 ans, alors racontez-nous, parce qu'il y a 3 ans, le concept n'était pas vraiment le même.
Non, le concept n'était pas vraiment le même, on était basé sur de la vente d'objets, et donc on s'est positionné sur le marché du Bon Coin et de toutes les solutions de vente d'objets d'occasion, et ça a posé pas mal de problèmes. En revanche, l'idée, elle plaisait à tout le monde, donc on a été résilients, on a tout remis à plat, et on a retravaillé, on a enlevé tous les freins, et on est parti sur une notion de proximité, de ton d'objet, et on est arrivé à un résultat encore plus vertueux que ce que c'était déjà au départ.
Alors déjà, quand on a l'application, pour ceux qui sont réticents à créer un compte, à proposer un mot de passe, là, avec Troqueur, c'est très simple, hein.
Ouais, je voulais pas de mot de passe. J'ai le même problème que je pense la plupart des Français avec les mots de passe. Pas la peine d'épiloguer. Ça a été compliqué avec mon équipe technique, mais j'ai réussi à faire passer l'idée. En fait, on n'a pas besoin de mot de passe. On met son prénom et son email. L'email, c'est nécessaire parce que c'est ce qui permet de se connecter à chaque fois et de recevoir les alertes quand quelqu'un veut votre objet ou quand vous avez vous-même donné un objet. Et c'est tout. En fait, voilà. Et l'application, elle est truffée de nouveautés, à savoir pour déposer un objet sur Troqueur, il suffit de 4 secondes. Vous le prenez en photo et l'annonce, elle est prête. On trouvera ça nulle part ailleurs, mais je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est d'une simplicité effrayante.
Alors, pour le don à l'association, parce qu'évidemment, ce n'est pas que du troc, pour finaliser la transaction, il faut faire un petit don. C'est quoi ? Il y a un minimum, c'est quelques petits euros, jusqu'à plus, et bien plus, évidemment, on l'imagine.
C'est ça, en fait, vous donnez ce que vous voulez pour l'objet à partir de 1 euro minimum. En revanche, si effectivement quelqu'un a décidé de soutenir une association qui lui tient à cœur et pour cela va se séparer d'un objet qui a une certaine valeur, il peut décider, il suffit de modifier l'annonce, il peut décider de mettre un montant minimum dedans. C'est-à-dire, voilà, j'ai un vélo, il vaut 30 ou 40 euros, je vais contraindre les gens, en tout cas le preneur, la personne intéressée, à faire au moins 20 ou 25 euros. Voilà.
De dons à l'association. C'est-à-dire quand on on veut troquer un objet, on peut proposer une association qui nous tient à cœur. C'est ça ce que vous nous dites.
Voilà. Quand vous installez l'application, vous allez choisir parmi les collectes qui sont en ligne. On vous présente toujours les collectes les plus proches de vous. On géolocalise et on vous propose les collectes à côté. Maintenant, à tout moment, si vous soutenez une petite association, vous avez envie d'un coup de soutenir les Restos du Cœur, vous pouvez, en cliquant sur le logo de l'association, choisir une autre collecte et vous pouvez changer à volonté. Vous pouvez donner un objet par association, enfin voilà.
Il y a plein d'associations évidemment, parmi les plus connues, les Restos du Cœur, la Fondation du Cœur, le Site d'Action ou la Ligue contre le Cancer. Et écoutez, c'est une très belle initiative, Boris Faure, Lydia Guirous, bon, il serait qu'on n'a pas de pétrole, c'est pour ça qu'il est cher d'ailleurs, mais on a des bonnes idées. Oui Philippe.
C'est grand coup de chapeau.
Est-ce que les livres, c'est considéré comme des objets?
Ah, très bonne question.
Tout à fait. Alors, les livres, ils ne partent pas facilement, mais il y en a qui partent. Et il y en a qui partent et qui reviennent. Je vous donne un exemple. J'ai croisé une dame l'autre jour qui a récupéré des livres sur la Corse, des livres avec des belles photos, etc. Elle a dit, moi, je vais le lire un moment et après, je vais le remettre sur Troker et ça refera un don. Voilà. Donc, ils peuvent partir et repartir. Voilà.
D'accord. Bon, en tout cas, vous pouvez créer une rubrique livre sur Troker. Je pense que Philippe Bilger, rien que pour Philippe Bilger,
absolument,
une bonne idée.
Boris Faure. J'ai beaucoup aimé, monsieur. Enfin, je trouve formidable l'action que vous menez, mais en particulier le côté local, c'est-à-dire que c'est le logiciel qui propose en fait des associations près de chez vous, en fait, par exemple, des associations régionales. Comment ça se passe concrètement?
Alors déjà, moi je trouve ça un peu aberrant quelquefois quand alors j'adore l'application Vinted, je trouve que c'est bien, mais quand je vois mon fils qui envoie un sweatshirt Nike à l'autre bout de la France, alors qu'il pourrait intéresser quelqu'un dans le même village, dans la même ville à côté, c'est dommage parce que c'est moi qui me suis occupé du colis, qui l'a amené dans un relais colis, il a traversé la France. Bon voilà, là on parle peut-être pas de pétrole, mais on sent que la proximité, elle se fait de plus en plus nécessaire. Et nous, cette fois-ci, donc avec cette nouvelle version de Troker, on est vraiment axé sur la proximité, le don en main propre. Et effectivement, pour les associations, c'est de la même chose. Ça intéresse toutes les associations qui ont besoin à un moment donné. Elles n'ont peut-être pas besoin d'argent, mais à un moment donné, elles vont avoir besoin de faire une collecte pour aider quelqu'un ou pour un besoin en particulier. Là, par exemple, ça peut même être une association de sport qui veut récupérer 500 euros pour fournir des maillots un peu plus de meilleure qualité pour l'équipe des filles de moins de 15 ans, par exemple, et ils vont démarcher tous les parents en disant, mais voilà, donnez des objets et ça nous permettra de
collecter. Donc, rendez-vous sur l'application Troker, votre application, puisque vous l'avez fondée il y a 3 ans. Merci à vous, Julien Roch.
Merci Philippe Rossi. Tout de suite, notre vraie voix du jour, puisqu'on est jeudi et qu'on a les vraies voix qui font rouler la France, ce sera Yann de Mont-de-Marsan.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Boris Faure est resté avec nous et la vraie voix du soir, c'est Yann de Mont-de-Marsan. Bonsoir Yann.
Oui, bonsoir David. Salutations. Alors, on se connaît un peu, donc je vais me permettre de te tutoyer, de te féliciter pour ton émission, avant tout.
Ah ben merci beaucoup. Alors je sais pas, on s'appellera après l'émission parce que j'ai le téléphone, mais avec grand plaisir. Alors,
Philippe, moi je voulais intervenir ce matin. Il y a quelque chose que j'ai trouvé. Si tu me permets, j'aimerais aussi pouvoir parler des deux sujets dont tu as parlé.
Justement,
ce soir.
On avait prévu de parler de la retraite à 65 ans et les propos tant de Sandrine Rousseau que de Bruno Le Maire.
Voilà, mais je voulais revenir sur un fait de ce matin, notamment dans la ville d'Ajetmo, dans les Landes, qui est une petite
bourgade, pas très très loin d'Orthez, c'est au sud-est des Landes.
Et ce matin, j'ai eu la surprise, alors les services municipaux quand même ont réagi assez rapidement, mais j'ai eu la surprise de voir justement sur cette route d'Orthez, dans un rond-point qui est le rond-point d'Espagne, une grande banderole où il y avait marqué « À mort Zemmour ». Et alors, je ne suis pas fan d'Éric Zemmour, mais je suis un ancien élu et je trouve inadmissible, en période électorale, qu'on puisse laisser propager des banderoles dans ce style-là, quel que soit le candidat, que ce soit un candidat d'extrême droite, d'extrême gauche ou n'importe quoi.
Mais absolument.
C'est pas la démocratie. On a fait tout un foin là pour l'histoire des parrainages, des 500 parrainages que certains n'avaient pas et compagnie. Ça en fait partie aussi, et ça c'est quelque chose d'inadmissible.
Alors voilà. Je suis entièrement d'accord. J'ai vu une photo, on me l'a envoyée, mais je vais faire réagir Boris Faure. Alors Boris Faure, vous êtes un homme de gauche. pas franchement un partisan d'Éric Zemmour. Cette banderole à mort Zemmour qui a été retirée par la mairie, c'est scandaleux, on est tous d'accord là-dessus.
On est d'accord, il y a une montée de la violence à l'égard des élus. Là, c'est Éric Zemmour qui est une personnalité nationale, mais cette violence s'exerce aussi contre les élus locaux. Ça a été malheureusement documenté. Il y a 500 à peu près maires et adjoints élus
agressés.
Qui ont été agressés sur le dernier trimestre de 2021. Donc, je vous rejoins pleinement. Il faut respecter les élus de la République.
Alors Yann, maintenant on va parler des retraites. La retraite à 65 ans, alors je donne le sondage là à l'instant T. Faut-il passer l'âge de la retraite à 65 ans? Vous dites oui, mais seulement à 15,4% et vous n'êtes pas d'accord.
Ouais, moi non plus, je suis pas d'accord, Philippe. Alors, je suis pas d'accord pour une bonne raison. Je crois que le président Nicolas Sarkozy, de mémoire, avait commencé à faire aussi des choses concernant la pénibilité. Voilà. Et effectivement, on peut pas demander à un maçon, à quelqu'un qui a porté des sacs. Alors maintenant, les sacs font 35 kilos de ciment, mais avant, ils en faisaient 50.
Enfin, 35 déjà. J'ai fait un peu de chantier. Porter des sacs de 35 kilos,
ouais,
je l'ai fait à 25, moi, 30, 40 ans, mais là, maintenant, ce serait un peu plus compliqué. Hein.
Et moi, j'avais une entreprise dans le bâtiment, j'avais des maçons, j'avais 18 salariés en tout, hein, et j'avais des gars qui portaient 6 tonnes de parpaing à peu près par semaine. Donc voilà, donc ces gens-là, on peut pas leur demander de bosser jusqu'à 65 ans. Au bout d'un moment, c'est complètement inadmissible. Le pire, c'est que ces gens qui prennent ces décisions. Alors je comprends bien hein, l'histoire du système de retraite par répartition et tout ce qu'on veut bien nous sortir. Mais enfin, ces gens qui prennent des décisions qui sont nos politiques. Et pourtant, moi, j'ai été un élu, hein, alors pas au niveau national, un élu local. Mais ceci dit, ces gens qui prennent des décisions, faut pas oublier que la plupart et je vais revenir aussi sur les propos de Sandrine Rousseau, qui quand même est quand même, il ne faut pas oublier, prof de fac, donc elle vit avec de l'argent public. Ah,
hein. Vice-présidente même de la fac de Lille, je crois.
Hein, on est d'accord. On va parler de Renaud Muselier, des propos qu'il a tenus sur votre antenne concernant les Français, en disant que les Français allaient devoir s'habituer et compagnie. Tous ces gens vivent avec de l'argent public, et c'est ces gens qui prennent des décisions pour le peuple, pour des gens qui n'ont jamais bossé de leur vie réellement, si ce n'est effectivement, on fait marcher un peu leur matière grise, si tant est que des fois ils aient deux neurones à faire bouger, ça c'est autre chose. Mais voilà, donc en fait très clairement, mais bien sûr que c'est inadmissible parce que effectivement on doit prendre en compte la pénibilité au travail, ça c'est le minimum. Et pourtant moi je suis un élu de droite à la base, hein, je suis républicain, je suis un gaulliste. Clairement, je pense qu'il y a des choses à revoir dans notre système.
On va faire réagir Boris Vore, qui lui est un homme de gauche. La pénibilité.
Philippe, hein, juste un truc, c'est qu'à 45 ans, parce que moi je l'ai vécu, à 45 ans, quand tu cherches du travail et que tu vas voir une entreprise, on te dit monsieur, vous êtes un senior.
C'est vrai.
Donc on va pas vous embaucher. Donc ces gens qui ne peuvent plus travailler à partir de 45 ans, comment ils vont faire jusqu'à 65 hein?
Ah bon. Vraie question.
Là, alors,
Boris Vore, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 45 ans, on est senior, on vous dit, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes trop vieux, donc vous restez à Pôle emploi, puis après le RSA, et après, quand viendra le temps, vous irez en retraite. C'est quand même compliqué.
Le marché du travail n'aime pas ces seniors, pas suffisamment. Et ce qu'il faut dire sur la réforme des retraites, c'est qu'il n'y a pas une solution unique, monsieur, vous avez parlé de pénibilité, il y a aussi d'autres leviers, il y a les cotisations, il y a plein de choses à faire. Et dire que le problème se résume à l'allongement simplement de la durée de cotisation, c'est réduire.
C'est le petit bout de la lorgnette.
C'est le petit bout, voilà, c'est étioler le débat, et je pense que ce débat mérite mieux, parce que des réformes des retraites, c'est 83 Mitterrand, qui ramène à 60 ans, c'est Sarkozy 2010. Autrement dit, il y en a une tous les 20 ans. Hein, de
30, hein. Ou 30, 83, voilà, 30, 2010, voilà, ça fait 27 ans. Hein.
Tu vous comptez mieux que moi, Philippe, bravo. Mais donc, il faut prendre ça au sérieux, vraiment.
Alors justement, on continue, Yann, sur le deuxième sujet, choqué par les propos de Sandrine Rousseau et de Bruno Le Maire.
Philippe, encore sur l'histoire des retraites.
Très bien.
Depuis 40 ans, on entend les gouvernements nous dire qu'il faut prendre des mesures pour les jeunes de moins de 26 ans. D'accord. Je n'ai jamais entendu aucun gouvernement prendre des mesures pour les personnes qui avaient 45 ans et plus. Et moi, je vais te dire une chose, et je le dis depuis longtemps, depuis que j'ai été candidat aux législatives, et je l'ai toujours dit. Je dis qu'on devrait coupler un emploi senior à zéro charge avec un emploi jeune. Et ça, ça fait longtemps que je le dis. Parce que, en fait, la personne senior va amener l'expérience. Et en plus, je suis pour le compagnonnage. Je suis pour qu'on forme les jeunes et que la transmission du savoir, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire, quels que soient les métiers. Depuis 40 ans, on a fait en sorte que tous les métiers manuels, que ça soit un boulanger, un mécanicien, que ça soit un charpentier ou un maçon, on a expliqué aux jeunes, parce qu'on les avait envoyés en CPPN, et ça, c'était Mitterrand. On les avait envoyés sur des voies de garage. Hein, on appelait ça des voies de garage en CPPN, parce que tous ceux qui ne faisaient pas d'études, on disait que c'était des cancres et des cons. Et très clairement, ces gens-là sont juste des gens qui se sentaient pas bien dans le système éducatif et qu'on a sorti du système éducatif en les envoyant vers des voies de garage. Mmh. Hormis que tout le monde n'est pas fait pour faire des études supérieures, certains s'éclatent à faire de la menuiserie, de la boulangerie, de la restauration et compagnie. Mmh. Aujourd'hui, on peine à trouver des mains d'œuvre, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir de la main d'œuvre? Et très clairement, je suis plus pour les formateurs de la formation professionnelle qui, eux, forment les jeunes à des métiers que pour certains profs qui vont leur expliquer que c'est des cancres parce que ces jeunes-là ne sont pas dans leur schéma de pensée. Et voilà. Donc ça, c'était pour finir sur ce sujet-là. Voilà.
Le mot de la fin, Boris Force, c'est très intéressant. Un senior, un jeune.
Je suis absolument d'accord avec vous, cette notion de compagnon. Compagnonnage, elle est très belle. Et la revalorisation des filières professionnelles, techniques, dans notre pays, elle est urgente. Ça, c'est un vrai sujet. Je crois qu'il est ni de gauche, ni de droite. Moi, qui ai vécu 20 ans à l'étranger...
Il est de droite, alors.
Il est droit...
Ou de gauche.
En vivant à l'étranger, j'ai vu tous ces jeunes pâtissiers, boulangers qui trouvent du boulot dans le monde entier, parce qu'il y a un savoir-faire dans certains métiers qu'il faut absolument revaloriser.
Merci beaucoup Yann de Mont-de-Marsan. Et puis ben, comme on est la station du rugby, bravo au Stade Montois quand même qui fait une super saison en Pro D2. On aura d'ailleurs la Pro D2 demain sur Sud Radio. Bonsoir Philippe Rossi.
Bonsoir à vous.
Je sens que vous êtes en train de mettre le pied, de mettre le contact dans la voiture, mais une voiture originale.
Ah oui, tout à fait. On va parler du carburant du futur. Peut-être, l'avenir nous le dira. C'est l'hydrogène. Voilà, surtout c'est d'actualité puisqu'en ce moment le plein est à quoi le litre 2,30 €. Voilà.
Ah oui.
Entre 2,20 € et 2,30 €. C'est sûr qu'avec l'hydrogène.
Mon anniversaire, c'est le 13 août. Offrez-moi un jerrycan de gasoil. Bah, 5 litres, ce sera un cadeau magnifique.
Est-ce que l'hydrogène, c'est le carburant du futur? On va en débattre avec nos experts, Philippe Boucli, le président de France Hydrogène, Jean-Baptiste Choimet, directeur général d'Elogène, et puis David Holderbach, président de Hyvia, c'est une co-entreprise créée par Renault et Plug Power. Avec vous évidemment, 0826 300 300. On revient dans quelques minutes avec les vraies voix qui font rouler la France, mais dans l'immédiat, voici Conseil de famille avec Stéphane Moller.